Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 2014, Laure Adler recevait Anouk Aimée dans Hors Champ pour un entretien dont nous allons entendre la deuxième partie. Un mot y revenait souvent dans les paroles de la comédienne, le mot « chance ». La chance d'avoir tourné avec Fellini, Lelouch, Demy, avec Lumet, Bertolucci et bien d'autres grands metteurs en scène. Avec Marco Bellocchio pour Le saut dans le vide, ce qui lui valut le prix d'interprétation à Cannes en 1980, quand, dans le même temps, Michel Piccoli, son partenaire pour ce film, recevait lui aussi ce prix dans sa version masculine. La chance d'avoir rencontré des êtres remarquables, Sartre, Giacometti, Picasso, d'avoir été l'ami de Jean Genet. Le mot chance, toujours, pour dire comment, petite fille juive, elle avait pu traverser les années d'occupation en se cachant un peu partout en France. Dans l'émission qui va suivre, c'était avec pudeur que Anouk Aimée évoquait La petite prairie au boulot, le film qu'elle avait tourné en 2002 avec Marceline Loridan à Auschwitz-Birkenau. Là où, moins chanceuse, Marceline Loridan avait été déportée en avril 1944 dans le même convoi que Simone Veil, que Ginette Kolinka et que la psychanalyste Anne-Lise Stern. De quoi sont faites les grandes actrices ? Mystère. Mais en écoutant cet entretien, on serait tenté de dire, peut-être d'élégance, de séduction, d'intelligence, d'une forme de joie à être au monde, et encore de mille autres choses, indicibles, que l'on entendait dans la voix de Anouk Aimée. Hors champ, Anouk Aimée, seconde partie, diffusée le 23 mai 2014 sur France Culture.
Hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir, seconde émission avec Anouk Aimée. Vous avez dit hier, Anouk Aimée, que ce n'était pas votre nom et que c'était Prévert qui avait choisi votre nom. Oui. Mais comment avez-vous passé votre enfance ?
Ah !
Et est-ce que vous avez été touchée par la guerre ?
Oh ben oui, comme tous les enfants de ma génération, oui, un peu plus. C'est plus difficile que d'autres et beaucoup plus facile que d'autres. Enfin, je veux dire, j'ai eu beaucoup de chance. Oui.
Quels souvenirs vous en gardez ?
De la guerre ? Ah ben j'avais peur, c'est toujours gênant parce que j'ai eu tellement de chance, je suis passée à travers la guerre, j'ai tellement été protégée et d'autres ne l'ont pas été, c'est toujours, il y a un peu de pudeur à raconter que bon, étant juive évidemment, on se cachait, il fallait jamais rester au même endroit, comme Claude Lelouch me disait l'autre jour, quand il me parle quelquefois d'une ville ou d'un endroit, je dis, ah ben, j'étais à l'école, là, il me dit, mais tu as été à l'école partout. Et c'est vrai, je suis allée à l'école dans plein d'endroits. Je suis allée à l'école à Paris, rue Milton, je suis allée à Marseille, je suis allée à Sanary, je suis allée à Villard-de-Lans, à Morzine, enfin, plein, plein, parce qu'il fallait jamais rester au même endroit longtemps.
Quand Marceline Loridan est venue vous voir pour vous soumettre son projet de la petite prairie au bouleau, comment avez-vous réagi ?
Au départ, je savais pas si je voulais le faire. C'est Dominique Besnéa, qui était mon agent, qui m'a dit « Tu dois le faire pour la mémoire. » Il y avait une pudeur, justement tout ça, de voir tout ça, j'avais la pudeur à jouer ce personnage, vous voyez ? Quand j'aurais pu être ce personnage, il y avait une certaine pudeur. Et il m'a dit « Tu dois le faire pour la mémoire. » Et c'est vrai. Et à partir de ce moment-là, je l'ai fait. Et voilà. Et c'était dur. C'était très dur. Vous avez déjà visité un camp ?
Oui.
Lequel ?
Auschwitz.
Ouais. On ressent pas mal de choses. Hein. J'ai toujours les gens qui ne croient pas au camp de concentration. On devrait simplement les laisser une nuit enfermés, là. Juste une nuit. S'ils sont un peu sensibles, je crois qu'ils vont ressentir des trucs. Juste enfermés une nuit, là, c'est tout. C'est pas plus méchant que ça. On peut même leur donner un sandwich. On va voir ce qu'ils ressentent. Moi, je sais ce que j'ai ressenti, ce que l'équipe du film a ressenti.
C'était la première fois pour vous ?
Oui. Nous avons tourné, là, donc, à Birkenau. Et moi, j'ai une partie de ma famille qui sont morts à Auschwitz. Donc, on se dit quand même, hein, il y a un morceau de nous là-dedans. Ça fait une... Voilà. Mais quand je regardais Marceline, vous savez, marcher là-bas, ça me... il se passait des choses. Hein. Quand Marceline Loridan, toute seule, quelquefois, je la voyais, elle marchait. On n'osait même pas venir lui parler, vous voyez, parce qu'il devait y avoir des souvenirs par délicatesse, vous voyez, on ne voulait même pas casser cette atmosphère. Je me souviens, comme elle est petite, vous savez, elle marchait comme ça, toute seule. Dans le camp, maintenant, il y a plein d'arbres et tout. Et on n'osait pas venir lui parler. Et voilà.
Et le texte de Marceline, vous l'avez incorporé très facilement parce que c'est un texte très douloureux. Là, la frontière du cinéma, finalement, se dissout.
Oui, non, mais...
Vous jouez plus.
Je ne sais plus où commence le jeu, où finit la vie, tout ça se mélange hein, par moments, même dans la vraie vie, je crois. Heureusement d'ailleurs, parfois. Non, c'est très bien. Et puis, on avait beaucoup d'humour. Il faut toujours avoir de l'humour, même dans les moments les plus graves. C'est la seule façon de s'en sortir, je crois. Et avec Marceline, tout ça, on avait des moments de beaucoup d'humour.
Ben, nous allons écouter un extrait de La Petite Prairie au Bouleau.
À l'aube, ils ont ouvert les portes. On entendait des hurlements, des chiens qui aboyaient. Des voix ont crié. Les gens fatigués, les vieillards, les enfants prenaient les camions. Moi, j'avais mal aux pieds, j'allais monter. Françoise m'a retenue de force. Ne me quitte pas. C'était la première sélection. Elle m'a sauvé la vie.
Tu dis bon, non, Tam. Marie, Germaine, ah non, non Juliette, Mathilde, Germaine, Madame Hirsch, Judith, Simone. sa mère, Madame Jacob. Victoire. René. Mireille, matrone de bordel. La petite Marie. Henriette, la voyante. Madeleine, Michel, Rachel et moi, Myriam. Ils avaient fait de nous des rats.
Non, Myriam, nous n'étions pas des rats. Souviens-toi, les nuits de grand froid, tu nous racontais de si belles histoires.
Quelles histoires ? Je me rappelle seulement les flammes, les odeurs de chair brûlée, nos yeux vides, l'entassement de nos corps vieillis trop vite, la peur, la mort, toujours, partout. Je me souviens qu'on s'est rencontrés une fois. Cela faisait 6 mois qu'on était ici. Tu m'as demandé, et maman et Michel. Je me suis jetée dans tes bras et un Allemand m'a tapé dessus. Je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, tu avais disparu. Je t'aimais tellement que j'étais heureuse d'être portée avec toi.
Nous venons d'entendre un extrait de ce film de Marceline Loridan, La petite prairie de Bouleau. Quelle trace a laissé à l'intérieur de votre mémoire ce film, Anouk Aimée ?
Bon, j'aurais certaines pudeurs à dire que ça... Je ne peux pas en parler, enfin, je veux dire, par respect pour Marceline. Moi, je suis une actrice. Marceline l'a vécu. Donc, j'espère que j'étais assez près du personnage de Marceline qui l'a vécu, je veux dire, j'ai pas le droit moi de... J'ai pas souffert, voyez, je n'étais qu'une actrice.
Oui, mais ce n'est pas par hasard qu'elle vous a demandé d'interpréter sa propre histoire.
Au départ, c'était pas moi qui devais le faire. Hein. C'est le hasard qui a fait que ce soit moi en fin de compte. C'était quelqu'un d'autre qui devait le faire. Et puis, je sais plus... Je crois que c'est Simone Veil qui lui a dit, tu devrais prendre, parce que je sais pas, avec l'autre personne, qui est une amie d'ailleurs, et qui a dit que de penser à moi pour le personnage, voilà. C'est très délicat de parler, moi j'ai fait l'actrice, voilà.
Mais ça veut dire quoi faire l'actrice ?
Essayer de montrer les sentiments de la vie, de la réalité, mais j'ai pas... Je ne veux pas me laisser... Aller. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est à Marceline. C'est-à-dire que, justement, quand on revoit ce film, on a l'impression que vous êtes tout sauf actrice.
Alors, j'ai été une bonne actrice. Non, mais je veux dire, la pudeur fait que je ne peux pas trop... Moi, je n'ai pas souffert à côté de ce qu'on peut ressentir quand on va là-bas. Alors, je n'ai pas le droit de... J'espère que j'ai été le plus près possible pour que les gens ressentent... Ce que ces femmes, ces hommes ont ressenti, et ces enfants. Que je sois le plus près de la vérité possible.
Ça a été l'un des rôles, peut-être l'un des rôles. C'est pas un rôle d'ailleurs, c'est un moment dans votre vie qui a dû être le plus difficile. Celui où toute la mémoire revient. Et on sent que votre corps, votre cœur et votre âme sont littéralement associés.
Ben, évidemment que c'est bouleversant d'aller là-bas, de rester là-bas une journée, c'est bouleversant. On est mal. Vous savez, on essayait de rire là-bas, mais même toute l'équipe, ils n'étaient pas tous juifs, on était détruits hein, le soir. Ce que vous ressentez, c'est épouvantable. Que les gens, c'est l'horreur. On a passé plusieurs semaines là-bas quand même. Heureusement, nous dormions à Cracovie parce que c'était pas supportable. Quand on arrivait, qu'on voyait la porte, là, vous savez, avec l'horloge en haut et tout, c'est horrible. Que les gens sont morts là-bas. Non, c'est horrible, mais bon. Non, j'ai la pudeur à parler de ça parce que j'espère que Marceline c'était le plus près possible de ce que Marceline voulait. Et voilà, et de pour la mémoire, comme disait Dominique, que les gens se souviennent. Voilà, et que ça touche. Il faudrait que des choses comme ça ne reviennent plus, n'arrivent plus, mais j'ai l'impression que le monde devienne de plus en plus fou alors. Mais voilà, il faudrait que ça touche les gens et leur dire, mon Dieu, si des choses comme ça arrivaient encore, c'est... Faut pas.
Donc vous pensez que le cinéma peut être aussi un véhicule d'émotion et de réflexion?
Je crois toujours, je l'espère en tous les cas, oui, que vous voyez des choses comme ça, vous vous dites, non mais faut pas que ça arrive ça, attends, dans n'importe, avec n'importe quelle religion, n'importe quoi, c'est pas possible. J'espère, oui, au moins, puisque quand c'est drôle, il rit, j'espère que quand c'est triste, il pleure.
Mais vous n'avez pas interprété de rôle... particulièrement gay, quand je pense par exemple à Marco Bellocchio et Le saut dans le vide, je me dis que vous êtes une actrice qui a été choisie par certains metteurs en scène parce que vous pouvez faire appel à un sentiment tragique à l'intérieur de vous peut-être.
Ben oui, non mais ça, toutes les actrices, parce que le film de Marco Bellocchio que j'ai adoré faire, vraiment.
Et pour lequel vous avez eu un prix d'interprétation.
Oui, à Cannes. Et Michel a eu le prix d'interprétation, lui.
Michel Piccoli.
Oui, il paraît que c'est jamais arrivé que les deux acteurs l'aient eu. Pas ensemble, hein, en même temps. Mais on a...
Il faut dire que c'était impossible de vous séparer, parce oui, mais, que dans le mais, film, oui, vous mais, êtes tous
mais
les
on
deux
l'a pas eu
omniprésents
ensemble.
Dans
vous
chaque
Vous voyez ce
plan.
Que je veux dire, c'est pas qu'il y a eu le prix d'interprétation pour nous deux. On l'a eu séparément, ce qui paraît-il très rare. Je crois que c'est jamais arrivé, je crois. Mais, oui, parce que quelquefois, c'est ensemble, c'est un pactage, comme ça. Bon. Mais là, elle est folle, c'est pas la même chose, c'est une folie, une hystérie.
Est-ce qu'elle est folle ou est-ce qu'elle est brisée de l'intérieur, cette femme qui est décrite
dans ce
film ?
Mais là, on part dans très longtemps, parce que peut-être que les fous sont brisés de l'intérieur, ça, on peut plus, là, on part.
Mais elle a un comportement social apparemment normal, entre guillemets.
Elle est perturbée, son frère l'a perturbée, elle est perturbée par cette forme de vide, mais enfin... C'est moins quand même dramatique que La Petite Prairie, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la même chose, elle est perturbée. Il y a beaucoup de gens perturbés aujourd'hui, vous savez. Non, c'est pas la même chose.
Ben justement, dans ce rôle, vous devez, pour les spectateurs, donner des signes de fêlure sans apparemment que ça soit trop grave et faire en sorte que la vie continue à aller à peu près normalement. Comment avez-vous puisé... signes qui nous alertent.
Bon, c'est beaucoup mon metteur en scène. Et puis, je suis allée voir... à l'époque, il était très intéressé, Marco Bellocchio, avec un psychiatre dont j'ai oublié le nom, qui faisait des meetings de plusieurs personnes. Et je suis allée écouter voir. Et j'ai pris des trucs, des gens qui écoutaient, qui regardaient, des petits trucs avec les mains. Je me souviens d'une petite chose comme ça. Il y avait une femme... qui écoutait ça, cette psychanalyse, qui avait des petits tics. J'ai volé. Nous, les acteurs, on est des voleurs. Moi, j'ai appris à jouer à comédie en regardant les gens vivre. On est des voleurs. Vous êtes à un café, vous regardez des couples, une personne seule. Vous imaginez des trucs, vous voyez. Là, c'est là où on peut voler des trucs. C'est en regardant les gens partout. Où vous êtes, dans les trains, partout. C'est là où pour moi, c'est là où on apprend à jouer la comédie. Et puis aussi, si vous avez un bon metteur en scène, il vous aide quand même. Mais je trouve que c'est là où on apprend à jouer, c'est en regardant les gens. Mais même n'importe où.
Il y a le metteur en scène, on a l'impression à vous écouter.
Ah ben non, j'ai dit le metteur en scène, j'ai dit ça. Et c'est le metteur en scène, évidemment.
Oui, mais le metteur en scène, il capte quelque chose de vous.
Donc... Oui, mais quelquefois, non, il y a des metteurs en scène qui vous apprennent quand même. J'ai eu la chance de tourner comme avec Fellini et tout, qui vous apprennent pourquoi tu ne ferais pas ça ou ceci. Ou... Non, il y a des metteurs en scène qui vous apprennent. Pas tellement, mais il y en a. De moins en moins, mais il y en a encore. Enfin, j'espère. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène. Marco m'a beaucoup indiqué, beaucoup. Mais vous me disiez, sincèrement, je trouve que dès le moment où vous savez parler et vous déplacer, jouer la comédie, vous faut regarder. Je ne dis pas qu'il faut un peu apprendre, évidemment, mais c'est à regarder les gens vivre, c'est là où...
Oui, mais comment on exprime justement ce rapport à la folie, comme dans Le saut dans le vide, où petit à petit, ne dit presque rien, elle ne fait presque rien qui ne soit normal. C'est des tout petits symptômes.
J'ai un petit peu de folie peut-être en moi. Non, mais Non, mais c'est le metteur en scène qui savait doser me demander et tout. Enfin, tout le monde peut le faire. Enfin, toutes les actrices peuvent le faire.
C'est un métier comme un autre.
Oui, il y a des
toutes
bons.
Les actrices peuvent tout faire et oui, mais tout bien, le monde peut devenir acteur.
Oui, mais
acteur.
Attendez, bien et pas bien. Il y a les bons et il y a les moins bons. Tout le monde peut le faire pas bien et il y en a qui le font très bien.
Donc il faut beaucoup de modestie pour pouvoir être acteur.
Il y a des gens qui ont besoin d'être modestes, d'autres pas. Chacun vit son... Voilà. Il y en a qui ne sont pas modestes du tout, mais qui sont quand même très bons. C'est vrai. Il y a des gens qui ne sont pas du tout modestes. Mais ils sont formidables. Chaque personnalité est différente. Il y a des gens modestes qui sont aussi géniaux. Enfin, je veux dire. De Niro, c'est quelqu'un de plutôt modeste. Hein. Ben, je me souviens, moi, je l'ai vu au théâtre Off-Broadway il y a quelques années. La présence. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre la présence ? Vous pouvez être le meilleur acteur du monde. Si vous avez un acteur ou une actrice qui a de la présence, vous êtes fichu. Et bien, je me souviens, il a parlé, il était en coulisses. Tout d'un coup, tout s'est arrêté. Rien que d'entendre sa voix. Non, mais il y avait quelque chose. Il arrive, et il est modeste. Enfin, il est. Mais c'est comme Depardieu aussi. Il a une présence, il se passe des trucs, il est là.
Qu'est-ce qui s'est passé justement au cours de l'automne dernier quand vous avez repris ce rôle de Love Letters avec Depardieu et que les gens qui ont eu la chance de pouvoir assister à ce moment en sont ressortis bouleversés ?
Mais, il était génial.
Bah, peut-être vous aussi.
Non, je sais pas, il m'a aidé. Non, mais il y a eu quelque chose de formidable entre nous. C'est vrai, on se connaît depuis longtemps, mais on se connaît pas bien. Mais il y a eu quelque chose, je sais pas, on est peut-être un peu de la même famille. Il y a eu un truc qui s'est passé formidable entre nous, c'est vrai.
Et qui était préparé?
Non.
Ou qui s'est passé là, dans l'instantanéité du temps?
On n'en était pas conscient parce qu'on n'a pas tellement répété. Non, c'est une chose comme ça en nous, nos deux personnalités font qu'il se passe quelque chose. Ça, ce sont les mystères. Heureusement qu'il y a des mystères. Sinon, ce serait tellement ennuyeux que tout soit pareil.
Nous allons écouter une interprétation de vous, des Love Letters, mais c'était avec Philippe Noiret.
Je t'écris cette lettre parce que j'ai peur de me mettre à pleurer de rage au téléphone. Je t'en veux à mort, Tom. Sache que quand tu es invité à un dîner avant un bal, tu es censé danser au moins deux fois avec la maîtresse de maison. Et je ne parle pas de ma grand-mère, non. C'est pour ça qu'on organise les dîners. Pour qu'on soit assuré d'être invité à danser. Et toi, tu n'as dansé qu'avec Ginny Waters et pas une seule fois avec moi. Ben, c'est très mal élevé, c'est tout. Tu ferais bien d'apprendre à vivre, Thomas. Tu n'arriveras à rien dans la vie si tu es grossier avec les dames. De toute façon, va te faire foutre, Thomas Anderson Ladd, et deux fois le dimanche.
Je n'ai pas dansé avec toi parce que je me suis froissé un testicule. Si tu ne sais pas ce que c'est, cherche dans le dictionnaire. Je voulais te le dire avant le bal, et puis j'ai été gêné. Je me suis blessé en jouant au hockey la semaine dernière. Si j'ai dansé avec Ginny Waters, c'est qu'elle a des jambes courtes et qu'elle fait des petits pas. Alors que toi, tu fais toujours de grandes enjambées et on aurait eu de gros problèmes. J'ai essayé à la maison avec ma mère et ça m'a fait un mal du chien. C'est pour ça que je n'ai pas dansé avec toi. Je mets des compresses chauffantes en attendant. Et j'espère que nous pourrons danser ensemble la semaine prochaine, à la fête de l'école.
Je ne crois pas à ton histoire de hockey. Je crois que c'est Ginny Waters qui t'a cogné un testicule. La prochaine fois que je te verrai, j'ai l'intention de cogner l'autre.
Je ne suis pas sûr que tu saches exactement ce que c'est qu'un testicule.
Je ne suis pas sûr que tu saches exactement ce que c'est. Une plaisanterie.
Nous venons de vous entendre, c'était avec Philippe Noiret, mais vous avez interprété ce rôle avec Bruno Kremer, Jean-Louis Trintignant, Philippe Noiret donc que nous venons d'entendre, Jacques Weber, Alain Delon et Gérard Depardieu. Alors là, vous pouvez peut-être nous expliquer ce que ça veut dire être avec quelqu'un sur un plateau de théâtre. Même rôle pendant des décennies et changement d'interprète. Et même texte.
On peut avoir plusieurs amours dans sa vie, hein ?
Ah !
Ah bah oui, non ? Voilà, j'ai eu plusieurs hommes dans ma vie. Il y a eu des plus ou moins des grands amours, et il y en a eu. C'était moins grand comme amour, mais ce sont les hommes de ma vie.
Et à chaque fois, Mélissa ?
Oui.
Que vous connaissez par cœur, parce que pendant que le texte passait, vous le disiez oui. Vous-même par cœur.
Ben oui, mais... Non, mais c'est vrai, ce sont plusieurs histoires d'amour. Ah, il y en a des plus grandes, évidemment, que d'autres. Ça, c'est sûr. Vous voudriez que je vous dise lesquelles? Non, je ne vous dirais pas. Ce ne serait pas gentil pour les petits amours. Mais on peut parler d'aujourd'hui. Je dois dire qu'aujourd'hui, moi, j'avais une grande passion de Philippe. Hein, Philippe Noiret, on s'est merveilleusement bien entendu et tout. D'ailleurs, avec Bruno, avec tout le monde. Mais c'est vrai qu'avec Philippe, on l'a fait d'ailleurs assez longtemps. Et alors maintenant, soyons, comment dire, gays, puisqu'ils sont plus là, beaucoup. Je dois dire qu'avec Gérard, il se passe un truc. C'est beaucoup grâce à sa présence qui est quand même... C'est un immense acteur, quoi. Il n'y a pas... Comme on dit aujourd'hui, il n'y a pas photo. C'est comme ça qu'on dit maintenant. Il n'y a pas photo. C'est immense, la présence qu'il a. Immense. La voix qu'il a, la façon de jouer, c'est... Je peux pas... Aujourd'hui, quels sont les autres acteurs? Oui, moi, je disais, De Niro, tout ça, Brando n'est plus là, si on le connaît encore, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent plus qui était Marlon Brando. Mais voilà, c'est cette dimension.
Est-ce qu'il y a des acteurs qui vous ont impressionné? Pas forcément ceux que vous avez connus ou avec qui vous avez travaillé, mais ceux oui. que vous avez vus au cinéma ou...
Ah ben, Brando... Si, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait un acteur qui s'appelait Laurence Olivier.
Ah
ça,
oui.
C'était ma passion quand j'avais 14 ans. Hein. J'ai vu Léo Durlevent 7 fois, moi. C'était l'acteur que j'adorais. J'adorais Brando. Pour moi, c'est Montgomery Clift. Mais les gens ne savent plus qui c'est, ça, Montgomery Clift. De Niro, Al Pacino, Sean Penn. Que ce sont des... Évidemment, tous ces acteurs m'impressionnent. Et puis, il y en a d'autres.
Et dans la jeune génération?
Dans la jeune génération, où il est placé Depardieu?
Bah, il a plus de 60 ans.
Oui. Dans la jeune génération, eh bien...
C'est encore très jeune.
C'est encore très jeune, c'est pas ça. C'est que... Ben, Sean Penn.
Réalisateur et acteur.
Oui. Mais ça manque un peu, disons, aussi bien chez les actrices que chez les acteurs, la dimension dont je vous ai parlé, des Meryl Streep, des... Voilà. Mais je suis sûre qu'elles sont là. Enfin, je... J'ai pas vu tellement de filles. Dernièrement, ça bouge beaucoup, quoi.
Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'évolution du cinéma tend à laminer les actrices? Et qu'au fond, maintenant, peu importe l'engagement avec des metteurs en scène, que le cinéma est devenu une sorte de grande bouche consommatrice des actrices et des acteurs, qu'il n'y a plus des acteurs fétiches.
Mais il y a une question de metteurs en scène, hein. Il y a beaucoup moins de grands metteurs en scène pour mettre en valeur ces actrices et ces acteurs aussi, et de sujets et de grands films. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de films moyens qu'il y avait avant, mais il n'y a pas vraiment de grands films comme il y avait. Est-ce qu'il y a des Kubrick? Est-ce qu'il y a des Truffaut? Est-ce qu'il y a des Fellini? Est-ce qu'il y a des Visconti? Il n'y en a pas beaucoup. Des Bergman, des... Hein, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Alors, ils arrivent peut-être, j'en suis sûre. Mais puis attendez, moi j'aime James Gray, tout ça, vous voyez, Anderson, j'adore Malick. Tout ça. Mais voilà, mais ils sont pas encore tous connus du grand public. Mais comme actrice, là, je vois Cotillard, et puis il y a qui est belge.
Émilie Dequesne.
Voilà, c'est une grande actrice. C'est non, il y a grands acteurs, mais. Mais je ne parle pas d'elle, mais ce qui manque, il n'y a plus des... Vous savez, ces personnages...
Il n'y a plus de stars.
Quand ils rentrent dans la pièce, que ce soit un homme ou une femme, tout d'un coup, il se passe un truc. C'est l'époque, peut-être. Je me souviens, même quand j'étais très jeune, un jour, j'ai vu Bergman, Ingmar Bergman, rentrer dans... Oh, il se passait un truc, là. Et des acteurs aussi, vous voyez ce que je veux dire. Oh, dis-donc, il rentrait dans la pièce, il se passait un... Il y avait une chose bizarre qui se passait, non? Il y a moins ça, mais il y a moins ça dans tout. Mais surtout une question de metteur en scène, hein, parce que je crois que des bons acteurs, des bonnes actrices, il y en a. Mais il y a pas mal de bons metteurs en scène, mais il n'y a pas de génie.
Ben, autre génie, nous allons l'écouter, c'est Jean Genet qui va lire un extrait du Journal du voleur, suivi d'un extrait de votre lecture Donc, cette archive est non datée. Donc, je ne sais pas quand c'était. Vous en souvenez, vous?
De moi?
De votre lecture de Jean Genet?
Non, il n'y a pas tellement... Enfin, je ne sais pas, il y a 10 ans, peut-être, je crois.
Je suis né à Paris le 19 décembre 1910. Pupille de l'assistance publique. Il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j'eus 21 ans, j'obtins un acte de naissance. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. J'étais venu au monde au 22 de la rue d'Assas. Je saurai donc quelques renseignements sur mon origine, me dis-je, et je me rendis rue d'Assas. Le 22 était occupé par la maternité. On refusa de me renseigner. Je fus élevé dans le Morvan par des paysans.
Quand je rencontre dans la lande et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tiffauges, où vécut Gilles de Rais, des fleurs de Genet. J'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûre de n'être pas le roi, peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, s'inclinent sans s'incliner, mais me reconnaissent. Elles savent que je suis leur représentant vivant, mobile, agile, vainqueur du vent. Elles sont mon emblème naturel, mais j'ai des racines par elles, dans ce sol de France nourri des eaux en poudre des enfants, des adolescents enfilés, massacrés, brûlés, par Gilles de Rais.
Quel a été le rôle de Jean Genet? Parce que vous avez eu une étrange histoire avec lui, Anouk Aimée.
Pourquoi étrange?
Parce que... Il vous a écrit un texte.
Quand je me suis mariée avec Nico Papatakis, Jean était notre témoin, était le témoin de Nico. Donc, il était très près de nous. Vous savez, Nico avait produit le seul film que Jean Genet a fait, qui est Un chant d'amour. C'est Nico qui l'avait produit. Nous étions donc très près de Jean. Je connaissais son entourage, enfin, tout ça. Lucien, enfin tous les personnages qui comptaient pour lui. Il voulait écrire pour moi un film, et il a écrit Mademoiselle. Et c'était le cadeau de mariage, c'était pour moi. Nico savait que Jean avait voulu le mettre en scène, puisque déjà il avait mis en scène ça. Et évidemment, Nico a essayé de trouver l'argent, mais personne ne voulait laisser Jean mettre en scène, parce c'est un personnage, Jean, hein, c'était pas... Et on a eu beaucoup de mal. Et oui, c'était pendant le mariage. Et puis, ce qui s'est passé, il a emprunté l'argent sur le scénario, parce que Jean était un peu comme ça. Et puis, un jour, quelqu'un a dit « Ah non, non, le scénario m'appartient, j'ai mis de l'argent dessus. » Et il était vraiment malheureux et tout. Et on lui a dit avec Nico, mais laissez tomber, Jean. On sait toujours, vous voyez, Jean. Laissez tomber, vous m'écrirez autre chose. Allez, oublions, et puis voilà. Faites pas d'histoire, laissez. Et puis le film s'est fait autrement. Et puis aussi, il avait écrit une pièce de théâtre, et le balcon. Et le rôle de l'ingénue, c'était pour moi. Et puis j'ai pas pu le faire. De la petite putain ingénue, j'ai pas pu le faire. Mais on a... toujours été amis, même que quand on s'est séparés, Nico et moi. Ils venaient me chercher. Alors là, j'avais 20 ans à peu près et on se baladait à Saint-Germain-des-Prés. Et ils me prenaient comme ça. Il y avait une façon de vous prendre le bras très fort et on marchait. Et je me souviens exactement, on était rue Saint-Benoît, sous mes fenêtres, parce que j'avais un balcon là-haut. Mais mon appartement donnait rue Saint-Benoît. J'habitais place Saint-Germain-des-Prés. Le balcon était rue Saint-Benoît. Et on marche dans la rue et il me dit... Vous savez pourquoi j'aime marcher comme ça avec vous dans la rue? Et je lui dis non, Jean, parce que les hommes vous regardent et moi je les choisis. C'est super. Et moi, j'avais 20 ans, j'étais ah bon, comme ça, j'étais un peu surprise. Mais tout ce que disait Jean, moi, je trouvais qu'il était tellement intelligent, tellement brillant. Oui, j'ai eu beaucoup de chance d'assez bien connaître Jean, oui.
Et qu'avez-vous gardé de cet esprit de Saint-Germain-des-Prés, puisque vous avez eu la chance de rencontrer les plus grands poètes, les plus grands écrivains, qui à l'époque n'étaient pas encore reconnus comme tels, donc de partager des moments de votre existence.
Oh, quand même, Sartre et tout ça, ils étaient déjà reconnus, même Prévert, hein, même Jean. Il y avait Giacometti aussi, je me souviens. Ils étaient entre le Flore et les deux Magots. Et c'est vrai, même Picasso, enfin, ça fait étrange, non, de dire « Oh ben voilà, mais c'est vrai ». J'ai eu cette chance-là et je suppose que ça m'a nourrie. Ils ont apporté des choses dans ma vie dont je ne suis peut-être même pas consciente. Je serais peut-être différente si je n'avais pas rencontré tous ces gens, toutes ces personnes, c'est vrai. Mais vous savez, c'est comme quand vous mangez du caviar, vous vous habituez à manger du caviar. Donc, comme on dit en anglais, « you take it for granted ». Étant donné que j'ai vu tous ces gens exceptionnels, ils font partie de ma vie, quoi. Ils ont fait un peu... C'est une partie des choses qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai eu la chance de les voir, d'écouter ce qu'ils disaient. Au moins, j'avais l'intelligence de ne pas parler, mais d'écouter. J'ai eu beaucoup de chance, oui.
Ben vous en avez peut-être encore. Vous n'avez pas raccroché, comme on dit.
Mais j'espère qu'ils n'ont pas raccroché, surtout. C'est ça l'important.
Vous continuez à tourner, vous continuez à être sur les plateaux de théâtre.
Oui.
Il n'y a aucune raison de s'arrêter.
Il y a toujours des raisons de s'arrêter, on verra.
À un moment donné, vous avez privilégié votre rôle de mère par rapport à votre carrière d'actrice.
De mère et de femme aussi, c'est vrai. Mais c'est-à-dire de mère, c'est pour ça que je me suis installée en Italie, pour que ma fille puisse être à l'école et pas lâcher tout le temps, vous voyez ce que je veux dire. De l'école alsacienne, elle a été au cours Chateaubriand à Rome. Et c'est comme ça qu'on est resté à Rome, parce que, voilà, pour pas que ça change tout le temps. Et puis après, j'ai vécu en Angleterre, parce que je me suis installée plus tard, hein, en Angleterre. J'ai vécu quelques années en Angleterre.
Et aujourd'hui, c'est Paris, le port d'attache, de nouveau.
Ben, on retourne souvent d'où on vient, hein. Mais enfin, j'ai vécu, je veux dire, en Angleterre, en Italie, je suis restée longtemps en Amérique aussi. Oui, mais Paris, souvent on revient, vous savez d'où on vient, je crois. On retrouve ses racines, non? Enfin, moi, mes racines sont un peu partout, quoi.
Qu'attendez-vous de la vie aujourd'hui? Et quand on voit, par exemple, des rétrospectives, vous avez eu droit, il y a très peu de temps, au Festival de La Rochelle, à une grande rétrospective avec tous vos films. Vous n'avez pas l'impression qu'on vous met dans un mausolée au lieu de...
Ah ben ça, les autres font ce qu'ils veulent, hein. Les autres, oui, c'est vrai, ils font tout ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ont une tendance à... C'est les autres qui vous vieillissent plus que vous. Vous ressentez comme avant, comme... Mais c'est les autres qui vous font ressentir que les années passent. Ça, c'est très fort, j'ai remarqué. Pour moi, la vie continue jusqu'au jour où elle s'arrêtera. Mais je veux dire, c'est un peu idiot ce que j'ai... Mais vous voyez, je sais pas, c'est les gens qui vous font remarquer. Et alors ça... Je sais pas quoi dire. D'ailleurs, je pense pas.
Vous lisez beaucoup de scénarios qui vous ont proposé?
Non. Non, il n'y a pas beaucoup de rôles. C'est de femmes, à partir d'un certain âge, il y a très peu. Et comme je ne représente pas tout
à fait... Pourquoi, à votre avis? Il y en a beaucoup plus dans le cinéma américain.
Oui, mais ben oui. Parce que aussi, moi, je ne représente pas... Vous voyez, à partir d'un certain âge, moi, je ne représente pas vraiment la française ou la parisienne. C'est vrai, hein? Où je peux être la femme du banquier, mère de plusieurs enfants, où je peux...
Vous êtes trop romanesque pour cela, Anne Kémé.
Je ne sais pas, mais on ne situe pas tout à fait comme ça. Pourquoi pas? Mais comme ça, au premier, on ne va pas dire, tiens, Anouk, elle peut faire ça. Ah oui, non, mais... Bon, peut-être si elle est un peu bizarre.
Peu borderline.
Je crois, je sais pas tout à fait, on va pas tout à fait penser à moi pour un personnage de je sais pas quoi. En tout cas, on n'y pense pas. Et je suis pas la parisienne ou la française, non? Je crois. Non? Je vous pose la question.
Non, vous êtes de partout. Vous pouvez vous promener dans une rue de Nantes.
Oui.
Comme marcher fébrilement. Dans une église à Rome, là je pense à Bellocchio, Saut dans le vide, ou à Lola de Jacques Demy. Vous n'avez pas de frontières.
Voilà, alors je ne sais pas.
Vous parlez beaucoup de langues.
Non, je parle l'anglais et l'italien bien, évidemment, parce que j'ai vécu là. Et à un moment, je comprenais un peu l'allemand. Je comprenais... Non, mais je suis... Non. C'est les deux langues que je connais bien, oui, parce que j'ai vécu. Non, mais j'aime bien le côté international, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de faire des choses. Aussi, regardez, comme j'ai tourné avec Sidney Lumet, qui était un homme formidable. On a tourné en Italie parce que le sujet se passait en Italie, mais c'était formidable. Et puis Justine, j'ai tourné en Amérique. Donc j'ai eu la chance de faire un peu partout, vous voyez les...
Cannes va s'achever, vous allez regarder la cérémonie, c'est important pour vous, c'est une vraie fête du cinéma ou c'est un rituel auquel vous avez sacrifié bravement pendant
non,
de très longues
attendez,
années.
Moi j'aime Cannes. Je ne comprends pas les gens qui disent « Ah, Cannes, quel ennui !» Il ne faut pas y aller alors si vous, ça vous ennuie. Je trouve que si vous avez un film, votre film est bien défendu, vous voyez tous les journalistes, c'est très bien organisé. Moi, je ne suis pas du tout celle qui dit « Oh, Cannes, ça m'ennuie ». C'est une forme de snobisme de dire ça. N'y allez pas, si ça vous ennuie. Mais quand on a un film, on en parle. Je trouve que c'est très bien, Cannes. C'est vrai, on défend votre film, vous voyez des gens étrangers que vous n'avez pas la chance de rencontrer un autre moment, de tous les pays, c'est formidable, on rencontre tout le monde. Ah non, moi je trouve ça très bien, mais il faut avoir quelque chose à faire. Moi je ne peux pas y aller si j'ai rien à faire, parce que là, vous êtes en dehors du coup.
C'est le lieu de toutes les mélancolies.
Pourquoi mélancolie ?
Quand on n'a rien à y faire.
Bah oui, mais on n'y va pas, donc c'est pour ça que je ne sais pas.
Mais certains y viennent, attirés par les lumières.
Chacun son truc. Hein. Comme vous me demandez à moi je vous réponds pour moi non. Pourquoi traîner et être là quand on n'a pas besoin de vous ? Il faut être là quand on a besoin de vous. Il faut être là quand vous êtes la chose qu'on veut, pas quand on est à côté, ça ne veut rien dire. Mais quand vous avez un film à défendre, je trouve Cannes formidable. Vraiment formidable. Il faut dire que j'ai eu toujours beaucoup de chance à Cannes. C'est vrai aussi. Mais faut y aller. À mon avis, il faut y aller si vous avez un truc. Ou alors si vous êtes là pour un ami ou une amie, vous voyez, on fait un dîner pour eux, vous voyez, une chose comme ça, pour défendre quelque chose. Mais moi, chaque fois que j'y suis allée, avec un film, on est toujours revenu avec quelque chose.
Quel serait aujourd'hui votre rêve le plus fou ?
De tourner avec un metteur en scène formidable et un rôle sublime. Un grand rôle avec un grand metteur en scène. Parce que si vous avez un grand rôle avec un mauvais metteur en scène, c'est fini. Un grand metteur en scène qui vous offre un très beau rôle. Bah, ça, j'aimerais beaucoup.
Ben, ça va peut-être arriver.
Ah, peut-être, mais je ne dis pas non, vous me dites...
Beaucoup de jeunes cinéastes doivent être très impressionnés par vous, Anouk Aimée.
Oh,
ils n'osent peut-être pas faire de propositions. Quand on a travaillé avec Fellini, Cukor et bien d'autres, Bellocchio et bien d'autres...
Bertolucci.
Claude Lelouch.
Non.
Attention, danger.
Non, pas du tout. Oui, non. Je croyais qu'ils pensaient à ça. Non, je ne sais pas. Mais...
Ils doivent être intimidés.
Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, s'il a vraiment de la personnalité. Non, et si c'est vraiment un bon metteur en scène et qu'il a une grosse personnalité, il n'aura pas peur. Non, mais tout va bien. Vous savez, moi, je ne me suis jamais battue pour un rôle. C'est drôle, hein. Parce que j'ai toujours envie que le metteur en scène me veuille. Besoin que lui-même, je sais pas, non, mais je trouve ça bien. Il y a des acteurs qui se battent pour moi. Je veux que le metteur en scène me veuille lui, parce que c'est lui qui veut. C'est important. C'est important qu'il vous veuille. On peut pas s'imposer, je crois. Enfin voilà.
Ben merci beaucoup, Anouk Aimée.
Je vous remercie, mais non.
Vous n'aimez pas les entretiens.
Non, avec vous c'est agréable. Non, c'est pas que j'aime pas. Non, mais je.
Vous croyez que vous êtes pas importante, pas intéressante.
Non, je crois pas que je suis pas. Je suis comme plein de gens, quoi. Je suis pas plus ni moins. Je dois être moins intéressante que certaines personnes, mais plus intéressante que d'autres. Hein. Non, je pas ce genre de. Vous savez, je crois qu'il faut, et plus on vieillit, et toujours, il faut beaucoup d'humour. Sinon, on ne s'en sort pas. Hein. Et c'est ça qui est très important, ça je m'en rends compte. Surtout avoir de l'humour, sinon c'est sinistre. Et plus on va, plus il faut en avoir. Parce qu'il y a des choses vraiment qui sont... on vit quand même une époque où on manque un peu de classe, d'éthique, un petit peu. Et moi, j'aime bien... une élégance, vous voyez ce que je veux dire. Ça, il y a de moins en moins. Ça, c'est dur. Et l'élégance, vous savez, vous rencontrez des gens très simples qui ont encore une certaine élégance. Mais là, en ce moment, les gens pensent un peu qu'à eux. Hein. un manque de dimension, voilà, de folie, de... mais il y en a encore.
Et beaucoup.
Et beaucoup, heureusement. Et c'est très bien quand on a un film et qu'on va à Cannes.
Ben merci beaucoup, Anne.
C'est moi qui vous remercie, vraiment, merci beaucoup.
Vous venez d'entendre Anouk Aimée dans le second numéro de Hors-Champ que lui consacrait Laure Adler en 2014 sur France Culture.